France Inter.
Les touristes viennent du monde entier pour immortaliser ce paysage de cartes postales.
On vient d'Inde,
Californie,
Mexique.
C'est ma femme qui m'a dit, ce week-end on sort, on va être Thaï, il va faire beau.
Ces résidentes voient leur village se transformer à chaque arrivée massive de touristes.
Les jeunes ne peuvent plus s'installer, le village va mourir. On va devenir une carte postale sans intérêt.
À Étretat, comme dans cet extrait de reportage, mais aussi au Mont-Saint-Michel, sur les remparts de Saint-Malo, ou encore dans certaines calanques autour de Marseille, la question s'impose, comment gérer les flux touristiques, notamment en cette période de l'année où nous n'avons que le mot « vacances » à la bouche. En France, 80% de l'activité touristique est concentrée sur 20% du territoire. On parle de surtourisme, fléau pour les habitants locaux qui étouffent sous cette pression touristique, mais aussi pour la biodiversité qui s'en trouve piétinée. Certains sites ont déjà développé des stratégies, des jauges par exemple, pour limiter le nombre de visiteurs, comme dans la calanque de Sugiton.
Lorsqu'on avait 2500 à 3000 personnes sur un site comme ceci, tous les espaces accessibles étaient occupés, mais les gens allaient aussi à l'intérieur de ces espaces protégés.
Le gouvernement a présenté le mois dernier un plan pour maîtriser ces flux touristiques. L'idée est d'abord de créer un observatoire des sites majeurs, et l'époque étant ce qu'elle est, un travail sera également fait avec les influenceurs qui ont tant de poids pour fabriquer les modes et à travers eux viser leur communauté. Tout un travail de promotion d'un autre tourisme, celui des détours, des chemins alternatifs, des sentiers battus.
Un des effets de ce surtourisme, c'est-à-dire cette disproportion entre les visiteurs et les habitants, c'est de maintenir une authenticité du village. C'est-à-dire qu'on ne devienne pas un parc d'attractions.
Pour ce dernier reportage de la saison, nous partons dans le sud de la France, très majoritairement dans les Bouches-du-Rhône, mais nous allons commencer par une halte dans les gorges de l'Hérault, à Saint-Guilhem-le-Désert. 260 habitants sur le registre de la mairie de ce bourg médiéval, l'un des plus beaux de France. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 260 résidents donc, contre 800 000 visiteurs par an. Saint-Guilhem-le-Désert veut malgré tout rester un village comme les autres dans ce tohu-bohu touristique. Sur tourisme, après les excès, la quête d'un nouveau modèle, c'est un reportage de Mathieu Bonnour et Hélène Langlois.
C'est parti, allez.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
On vient d'arriver sur un des nombreux parkings de Saint-Guilhem-le-Désert. Il y a déjà pas mal de monde alors que il n'est que 10h le matin, en pleine semaine, et ce n'est pas encore la haute saison.
Allez, je suis à vous. Ça a été rude. Bonjour, je suis Philippe Séga, je suis né à Saint-Guilhem, et j'ai un gros amour pour ce village où mes ancêtres sont nés et où je continue à faire ma vie. Quoi.
Et vous êtes tabagiste ici sur la place de...
Non, c'est ma femme. C'est votre... Moi, j'ai le restaurant en face.
Vous avez le restaurant en face.
C'est un peu de secte, hein, un peu tout. Hein.
Et vous avez quel âge ?
52.
52.
Et on a la chance d'avoir un endroit qui est à la fois paisible, où on peut travailler, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu es dans ton pays, tu es bien et tu peux travailler. Voilà. Il faut apprécier la chance qu'on a, arriver à vivre dans ton village et y travailler. On ne va pas demander grand-chose de plus, quoi. La qualité de vie est là, quoi. Voilà.
Et forcément, vous êtes commerçant, donc ce tourisme, il est important. Mais en même temps, c'est un flux de voitures en continu l'été ici.
On ne peut pas avoir le beurre, j'en ai beurre. On a quand même un flux énorme pendant juillet et août, je le conçois. On a du monde toutes les vacances scolaires, toute l'année. Et on a les week-ends sont chargés. Mais en semaine, on est paisible, quoi.
Donc là, on est sur un des parkings de Saint-Guilhem. Ça n'existait pas, j'imagine, il y a plusieurs années.
C'était un champ de pommiers. C'était un champ de pommiers, ici, ouais. Ouais. Après, ce qui est bon, c'est que c'est pas expansif. Hein. Je crois qu'on a 1500 personnes en instant T sur le village, quoi, avec le parking qu'on a. Après, les navettes font qu'il y a beaucoup plus de flux qui arrivent, mais au niveau des voitures, il y a une barrière, quoi. Quand j'étais gamin, mes parents, les touristes, ils nous font chier. Mais oui, ils ont tout loupé. Ils ont pas su saisir l'opportunité de vivre de cela. La mienne génération et ceux qui viennent derrière ont compris qu'on peut combiner les deux.
Parce que vous vous dites, dans les années 80, donc vous aviez un peu plus de 10 ans, et il y avait déjà des touristes.
Oui,
mais il y en a eu de plus en plus.
Voilà, c'était... Alors attendez, la commune a vu arriver les touristes, mais ne gérait pas tout ça. De 90 à 2000, le tourisme était un peu, entre guillemets, anarchique. On avait des voitures qui se garaient jusqu'au pont du Diable, tout le long, les pompiers n'étaient pas passés. Depuis, on gère le tourisme, quoi. On gère le tourisme.
Le ciel est en train de se charger, il devient noir, ça gronde. Mais il y a quand même des touristes qui arrivent encore sur le parking de Saint-Guilhem-le-Désert.
Chercher un plan de Saint-Guilhem, en fait.
Vous voulez que je vous explique un petit peu où est-ce
qu'on se situe, tout ça ? Oui, ça serait très gentil à vous, merci.
Alors, nous, on est juste là, au point d'information.
D'accord.
Donc, pour commencer la visite, moi, je vous conseille de commencer par l'abbaye de Gélonne.
Oui.
Donc, c'est les grandes portes en bois que vous avez au milieu de la place sur votre gauche. Donc, c'est autour d'elle, tout simplement, que c'est construit le village. Après, si vous voulez un petit peu vous éloigner du village, sans faire de rando, etc.,
oui.
Vous pouvez prendre la rue du bout du monde. Donc, c'est la seule rue de la place
qui monte ruisseau, là.
C'est celle qui monte à droite, en sortant de l'office de tourisme. Ouais. Vous avez une balade, donc
oui.
C'est 30 minutes aller et 30 minutes retour maximum. C'est sur un chemin, c'est plat, qui vous emmène dans le cirque de l'Infernette. Donc là, vous arrivez dans un vallon entouré de falaises et c'est vraiment très très joli,
ben,
naturel, tout ça. Avec
voilà, ben, on va faire voilà. Ça. Et bien, je vous remercie.
Avec plaisir.
Bonne journée, au revoir.
Vous venez de donner les points importants, mais en même temps... de dire vous pouvez sortir. Le but c'est aussi de faire en sorte que tous les touristes ne soient pas coude à coude dans la rue du village.
C'est ça, ça c'est un petit peu le petit problème l'été, c'est que Saint-Guilhem c'est un petit village, c'est un petit village médiéval, donc les personnes sont vite agglutinées. Donc il faut vraiment les inviter à sortir de ça et leur montrer qu'à côté il y a des villages qui sont pas classés plus beaux villages de France ou même des randos etc qui sont pas forcément classés mais qui permettent d'être plus à l'air libre, d'être plus tranquille en même temps de voir des choses tout aussi belles même si elles restent différentes. Oui.
Une rue principale à Saint-Guilhem-le-Désert qui est assez petite, très médiévale, assez serrée, avec beaucoup de commerces. Presque chaque porte, c'est un commerce à destination des touristes. On descend cette rue parce qu'on a rendez-vous maintenant avec monsieur le maire Robert Sigel à la mairie de Saint-Guilhem-le-Désert.
Bonjour.
Comment on fait pour gérer une ville avec 260 habitants, mais 800 000 personnes qui passent ici chaque année ?
C'est une excellente question parce que elle pose vraiment vraiment le problème de l'acceptabilité du tourisme par rapport aux gens qui y vivent. Mais au-delà de ça, un des effets de ce surtourisme, c'est-à-dire cette disproportion entre les visiteurs et les habitants, c'est de maintenir une authenticité du village, c'est-à-dire qu'on ne devienne pas un parc d'attractions. Je ne saurais pas dire à quel seuil, mais si on descend au-dessous d'un certain nombre de personnes qui vivent au village à l'année, eh bien, ça ne sera pas tenable. C'est-à-dire que ces racines, elles deviendront du folklore. Voilà.
Ce flux, justement, est-ce qu'on vous demande de le limiter ?
C'est le principe des grands sites de France, c'est-à-dire c'est de remédier à la surfréquentation. Donc, c'est-à-dire qu'on a des périodes de pointe l'été où, effectivement, la visite peut être désagréable, il y a un encombrement de voitures, etc. La jauge la plus simple, j'ai envie de dire, c'est qu'on a très peu de stationnement.
Est-ce que ça fonctionne, cette manière de réguler les flux ?
Oui, ça fonctionne. Ceci étant, ça n'exclut pas que, à certains moments, il y a une vie qui est plus difficile sur le village. Quoi, hein, quand, mais c'est des périodes de pointe qui sont quand même assez limitées dans le temps. Par contre, on sent bien, avec les changements qu'il y a eu à la suite de la pandémie et ce flux de tourisme de proximité ou national, qu'il va falloir à des moments peut-être aller un petit peu plus loin. Et dans le cadre du Grand Site de France, on est en train de travailler sur un renouvellement du label, donc qui comprend un plan de circulation dans les gorges. Et on va vraisemblablement, d'ici 5-6 ans, tester, comme ça se fait au Calanque, c'est-à-dire la pré-réservation pour venir se garer à Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà, en période de pointe, évidemment. Un, on évitera que des gens viennent, se retrouvent devant une barrière parking complet et repartent, ce qui est une expérience désagréable. Mais aussi, ça veut dire que ceux qui anticipent de venir sont des gens qui sont plus concernés, plus motivés, et qu'on pourra les attirer pour je dirais pas de meilleurs motifs, tout le monde a le droit de venir à Saint-Guilhem, mais je veux dire, ils seront plus attentifs à ce qu'on leur propose en termes de patrimoine et de découverte.
Il n'y a pas que les petites villes qui subissent cette surfréquentation. Marseille, deuxième ville de France, 573 escales de paquebots de croisière l'année dernière. Plus d'1 400 000 croisiéristes ont foulé le sol du terminal sur le port, soit 11 immenses bateaux par semaine en moyenne et des retombées économiques contestées. La dernière étude sur le sujet remonte à 2016, avec 310 millions d'euros revendiqués par la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence. Mais depuis, le Covid est passé par là et des opposants au balai des paquebots dénoncent ces études. À l'Estac, petit quartier au nord de Marseille, port historique de pêcheurs, les paquebots défilent sous le regard méfiant des habitants.
On est là-bas, moi je suis normande dedans.
Ah, ça va mieux alors, quand même, ça va mieux. Il faut que j'aille voir, vous voyez. La Normandie, j'ai un truc, il faut que j'aille voir avec là, j'ai une débarquement.
Ah oui.
Je vous demande votre prénom déjà.
Maurice, Momo des Pins de Mirabeau. Voilà, ici c'est la partie de ma vie, ce port, c'est des petites gens qui l'ont formé. Et nous sommes aussi bien aujourd'hui parce qu'il y a des petites gens qui ont essayé de le conserver comme il était. C'est vrai qu'économiquement, les croisières, c'est bien. De l'autre côté, il y a la pollution, le gène. Moi, je vais vous dire, j'ai un bateau, enfin, mon épouse a un bateau de 1912, un pointu comme celui-ci. Qu'on travaille beaucoup dessus, on s'amuse à pêcher au bord, parce qu'on ne peut pas aller loin avec des bateaux comme ça. Bon, quand il vous arrive des croisières, qu'il y en a, ils font la queue comme pour entrer, ils sont un derrière l'autre à 600 mètres d'intervalle le matin, c'est compliqué.
Quand vous sortez en bateau, vous les voyez de très proche, c'est très impressionnant.
De très proche, je peux vous dire que avec ma barque encore, quand on pêche à l'entrée du port de Marseille, nous les voyons, nous sommes à 20 mètres du bateau, dont les gens, nous, on regarde la tête en l'air comme si on regardait la tour Eiffel, et eux, ils vous regardent en bas comme s'ils regardaient d'un immeuble de 30 étages. Alors ils vous regardent, ils vous disent « Ah, regarde le petit bateau !» Quand ils rentrent, il faut faire attention de ne pas les gêner. Bon. Nous, les Marseillais, on dit « Il y a un immeuble qui rentre !» Bon, après, il est difficile de juger. Et j'en ai fait des croisières. Bon, c'est super bien. C'est super bien. J'en ai fait 3-4. C'est super bien. L'homme était un génie, mais c'est le génie du mal. Vous savez.
Et est-ce que c'est bien pour Marseille?
On vit toujours pareil. C'est bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre. Bon, après, pour les gens du Vieux-Port, quand il vous arrive 3000 personnes, c'est bien, parce qu'il y a toujours le touriste qui va venir vous acheter un cendrier, une bonne mère en cire, ou n'importe quoi. Et les gens, pendant le confinement, là, ils pleuraient tous misère. Hein. Et puis un bateau, mais nous, on était tranquille. Hein. Je peux vous dire qu'on est aussi bien pour les avions que pour les bateaux, on était tranquille. Hein. Oui, je pense à dire que c'est bien, il faudrait que je voie les chiffres.
Nous avons réussi à aller sur l'une des digues du port de Marseille,
juste devant l'entrée du terminal croisière, à seulement quelques dizaines de mètres de nous. L'immense MSC Seashore est en train de faire son entrée dans le terminal. La fumée noire des cheminées tache le ciel bleu de la cité phocéenne. Nous entendons depuis la côte les animateurs du bateau qui annoncent l'arrivée. Nous voyons aussi le toboggan aquatique installé sur le pont et les croisiéristes qui saluent les petits bateaux autour. Nous restons loin car malgré un accord dans un premier temps des gestionnaires du port de Marseille, l'entretien a été annulé à la dernière minute et MSC Croisière, l'entreprise gestionnaire de ce navire, nous a refusé l'accès au terminal croisière. Nous avons tout de même réussi à entrer dans le terminal croisière au moment de l'arrivée du MSC Seashore, mais avec des micros cachés et discrets pour ne pas se faire repérer. Et on peut voir de loin derrière les grilles, à quelques dizaines de mètres, des gens qui descendent en continu par le petit pont qui relie le bateau à la terre, soit avec des valises parce qu'ils s'arrêtent ici, ou alors juste un sac à dos pour sûrement une excursion à la journée.
Vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui dans le port de Marseille.
Quelle est la station qui est en train de couler
hein? Extinction!
Les bateaux qui se trouvent derrière le Wonder ont été invités à reculer et à attendre. En fait, le blocage est opérationnel.
Le port de Marseille-Provence, c'est le premier port d'embarquement de France. En 2019, avant le Covid, 500 navires de croisière y ont fait escale, ce qui représente 1,8 million de passagers. Mais ces activistes dénoncent les conséquences de ces activités.
Ce genre de monstre est une aberration absolue et représente à eux seuls l'absence de volonté et de courage politique de nos élites dirigeantes. Sur un bateau comme celui-là, pour un séjour de 8 jours avec 48 heures d'escale, le bilan carbone est de 4,5 tonnes de CO2 émis par personne. L'équivalent de 2 fois ce qu'on devrait consommer par personne et par an en France.
Nous allons rencontrer Stop Croisière, c'est un collectif qui vient tout juste de fêter sa première année d'existence. Ils se battent contre le passage des croisières dans le port de Marseille et nous avons rendez-vous avec Gwenaël Ménez, c'est l'une des porte-parole de ce collectif.
Oui, allô ?
Oui, bonsoir, c'est Mathieu Bonnour à France Inter.
Oui. Vous avez trouvé ?
Mais je crois que nous sommes là, c'est dans une petite cour, c'est ça ?
Oui, ben c'est tout au fond.
Je vous vois, très bien.
Pour la météo. Venez rentrer.
Ce que vous attendez du moins des croisiéristes, c'est qu'il n'y ait plus du tout de croisière à Marseille.
Alors, ben oui. En fait, notre objectif, c'est d'alerter sur tout ce qui ne va pas avec les croisières. Donc, de penser la fin de cette industrie. Les croisières, on estime que c'est une activité dont on peut se passer. Et on peut faire du tourisme autrement. Au vu de l'impact que ça a.
Ces problèmes que vous ciblez, c'est la pollution en grande majorité.
Alors, il n'y a pas que la pollution. C'est vrai que ce qui nous a, disons, alerté, c'est de voir les fumées et la pollution que ça engendre et, l'impact sur la santé des populations qu'il peut y avoir. Mais il y a aussi l'impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité marine. En fait, toutes ces raisons font que, aujourd'hui, si on souhaite quelque chose qui soit éthique et durable pour l'environnement, en fait, ce modèle, il ne peut pas continuer.
Yes! C'est quoi, orange? Ça, ça
ouais,
va, non?
C'est... Ouais, c'est hyper piéton, là. Ouais. Carrément.
Ok. Moi, je serais bien dans le tourisme.
Les militants de Stop Croisière essaient d'amener ce sujet en dehors des quartiers directement concernés par le passage de ces énormes paquebots de croisière. Comme ce soir, nous les suivons pendant une session de graffiti dans les rues de Marseille. Nous sommes juste à côté de l'avenue du Prado. C'est une avenue très connue, très empruntée. Le but ici, c'est de montrer ces messages au plus de gens possible.
Franchement, sur les autres sessions, nous, les gens, ils nous disaient bravo.
Ouais, tout le temps.
Plutôt,
non, ça passe trop de mieux.
Ils regardaient, ils disaient... Bravo. On met quoi? Blanc?
Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Là, on va écrire La croisière s'amuse, le climat trinque.
à côté d'un personnage avec une bulle autour pour faire un petit peu bande dessinée.
Et le vélo lui répondra stop croisière.
Cette plainte collective que vous avez déposée, elle vise qui ?
On a porté plainte contre la pollution des navires et c'est une plainte au pénal. Et l'idée, c'est qu'il y ait une enquête qui puisse être faite pour savoir d'où viennent ces pollutions et pour forcer un peu les études sur la question avec les outils que sont la justice, par exemple, les outils de public. Puis c'est aussi pour reconnaître qu'il y a des victimes de ces bateaux et permettre de dire bah, « oh, oh, on ralentit en fait là ce qu'on fait ». Il faut penser ces questions parce que là, les choses s'accélèrent sans qu'on prenne conscience des réels impacts.
Quand vous parlez de victimes, vous parlez du climat, mais aussi de personnes et de santé publique.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, la plainte, elle a été portée par des habitants et des habitantes qui sont victimes, donc qui ont vraiment des problèmes de santé, et portée aussi par deux associations qui représentent la biodiversité et la nature, qui ne peut pas porter plainte devant la loi. Donc, notamment, les victimes que sont... la faune et la flore marine. Il faut juste repenser des façons de nos loisirs, pas qu'ils soient néfastes pour les autres, quoi. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
Cette folie touristique a forcément des conséquences sur la vie des résidents de ces endroits prisés. Par exemple, la ressource en eau. Elle se raréfie, les étés de sécheresse se succèdent et en zone touristique, la consommation explose. Mathieu Bonnour et Hélène Langlois sont allés à Cassis, petit port méditerranéen entouré de calanques. 7000 habitants vivent à l'année dans ce décor de carte postale, 45 000 l'été. D'où l'urgence à trouver une solution pour l'accès en eau. Comment en économiser ou alors où en trouver ailleurs ? Car sous les calanques de Port-Miou se cache peut-être la cinquième réserve d'eau potable du pays. L'eau est légèrement salée, mais un traitement selon une technique bien connue pourrait régler une partie du problème. Pour accéder à la source, il faut descendre dans un trou de 45 mètres de profondeur, creusé il y a 50 ans. Mathieu Bonnour et Hélène Langlois ont suivi le chemin, ouvert par un grand connaisseur de la source.
Voilà, interception.
La verrue des calanques.
Sur France Inter.
Ce que vous appelez la verrue, c'est une cabane verte qui vous sert d'abri et, et de trou.
Alors, je suis Marc Doucher, spéléonaute, président de l'association Rivière Mystérieuse.
Qu'est-ce qui se situe sous nos pieds ici à 45 mètres ? C'est de l'eau qui est beaucoup moins salinisée que la mer qui est à seulement quelques centaines de mètres.
Alors c'est une rivière d'eau douce qui est polluée par les entrées maritimes et qui fait que au lieu d'avoir de l'eau bien nette à la consommation, c'est une eau saumâtre. Une eau saumâtre, c'est une eau légèrement salée.
Parce que c'est la ressource là qui est sous nos pieds, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble, ce que ça représente ?
C'est des sources qui sont connues même depuis l'Antiquité, puisqu'on parle que les Romains venaient puiser de l'eau douce à la sortie en mer. Sous nos pieds, c'est une grosse rivière, c'est un fleuve, en sachant qu'il y a tout autour du bassin méditerranéen des rivières analogues qui pourraient peut-être exploiter encore plus facilement que celle-ci. Le débit des deux rivières cumulées entre Bestouan et Port-Miou, ça dépasse les 3 mètres cubes seconde, ce qui permettrait de nourrir une ville comme Marseille.
Juste cette rivière hein.
Juste l'ensemble des deux rivières jumelles. Et là, des rivières comme ça méritent d'être exploitées.
Alors, on va être obligé de mettre en branle le groupe pour avoir de la lumière. Et pour avoir de la ventilation.
Bon ben, il n'y a plus qu'à descendre. Le dernier tire la porte.
Allez, on se met sur l'échelle. Faut pas avoir peur du vide, hein. Il faut pas être épais non plus. Moi je fais 1m90. Je passe à peine. Hein. Il y a des petits étages, c'est pas mal ça.
plus en plus frais. Et les barreaux sont mouillés maintenant. Faut y aller tranquillement.
C'est là qu'on se rend compte que 45 mètres, c'est beaucoup. Hein.
Bah, notre guide, lui, il est déjà presque en bas, alors qu'on n'est qu'à la moitié. C'est de plus en plus étroit. Eh ben, bien, c'est physique votre affaire.
Essoufflé, c'est normal, hein, c'est pas trop bien ventilé. À la remontée, ça devrait aller mieux, le temps de faire de la ventilation. Là, c'est un petit peu boueux.
Donc, on remonte une galerie. Et il y a des rails par terre, il y avait un petit train avant ici.
Ben, c'est le chariot pour manipuler le matériel, tous les matériaux de construction.
Pour déterminer si l'eau est salée ou douce, vous faites comment ?
Alors, on a des capteurs qui analysent la salinité de l'eau et qui nous permet d'avoir des idées, mais on ne fait que des prélèvements. Maintenant, on a des appareils qui restent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui nous permettent de faire les évolutions de pression et de salinité.
Au début, vous dites que vous étiez un peu explorateur, vous faisiez ça pour chercher, mais maintenant qu'il y a de moins en moins d'eau, qu'il y a de plus en plus de sécheresse, j'imagine qu'on attend un peu plus de vous.
Ben, en tout cas, les plongeurs souterrains, ça fait quand même bien une cinquantaine d'années qu'on est, alors peut-être pas spécialement ici, mais dans toute la France et en tout cas dans l'Europe du Sud, à contribuer à mettre à jour des réserves d'eau douce. Et il y a pas mal de villes qui doivent leur alimentation en eau potable par des recherches préliminaires qui ont été faites par les plongeurs souterrains.
Ici, là, la ressource, elle représente...
Il y a deux rivières parallèles. Il y a le Bestoin qui est à 1,5 km, 2 km d'ici, et cette rivière de Port-Niou. En additionnant les deux, on a 3 ou 4 mètres cubes secondes qui alimenterait largement Marseille.
Quand on dit que c'est la cinquième source peut-être d'eau potable en France, c'est énorme.
Pour Miou, c'est un fleuve. Hein. On est à 500 mètres de la mer. C'est un fleuve qui ne voit jamais le jour, mais c'est un débit énorme. Hein. On est pas loin de Fontaine de Vaucluse au niveau du débit. Quand vous voyez Fontaine de Vaucluse, derrière, il sort une rivière, la Sorgue, qui fait plusieurs mètres de large. Enfin, c'est quelque chose d'important. C'est une vraie rivière qui sort. Ici, on ne la voit pas parce qu'elle sort en mer, mais c'est un vrai fleuve qui sort dans la mer.
À la surface dans le port de Cassis avec plein de petites maisons de toutes les couleurs juste en face du port, un endroit où il y a plein de bateaux, tous très beaux, très brillants. Ils sont lavés régulièrement par les plaisanciers avec de l'eau douce. Ça peut surprendre en période de sécheresse, mais c'est la seule solution parce que l'eau de mer abîme ces bateaux. Face à cette utilisation de l'eau, la capitainerie de Cassis décide donc d'investir dans une machine à désaliniser l'eau, et c'est là-bas que nous allons rencontrer le directeur du port de Cassis, Pascal Cellier. Il y a justement deux plaisanciers qui sont en train de laver la coque de leur bateau avec des nettoyeurs à haute pression qui utilisent de l'eau potable.
Bonjour.
C'est pour toi, c'est mon cadeau.
Bonjour.
Pascal Cellier. Enchanté. Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
C'est chaud aujourd'hui, hein ?
Un petit peu, ouais.
Allez-y.
Effectivement, les plaisanciers aujourd'hui se servent de l'eau douce déjà pour ravitailler leur bateau en eau douce, mais aussi pour les rincer, pour les laver, les entretenir.
Là, aujourd'hui, les mesures que vous prenez, ça passe par, entre autres, une machine à désaliniser l'eau.
Exactement. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir et de s'orienter sur une machine qui va permettre de dessaler l'eau, qui va permettre dans un premier temps de pouvoir rincer et laver les bateaux afin de les entretenir et de ne pas les abîmer. À terme, on essaye aussi de réfléchir à ce même système, mais pour avitailler cette fois-ci les bateaux, les cuves de bateaux.
Parce que c'est une technologie qui coûte cher, j'imagine.
Exactement, sur des petits bateaux, ça serait pas du tout rentable. Donc c'est vrai que si on arrive, nous, en tant que gestionnaire du port, à faire l'acquisition de ce type de matériel, ça permettrait effectivement de redistribuer de l'eau douce pour ces bateaux.
Comment vous expliquez que finalement c'est quelque chose qui n'est pas très répandu pour le moment ?
Je pense que jusqu'à aujourd'hui, la ressource de l'eau douce n'était pas un enjeu pour beaucoup de personnes. C'était quelque chose qui était pas très cher d'une certaine manière dans la consommation. Depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'avec les arrêtés de sécheresse, avec les médias qui parlent énormément justement de toutes ces problématiques de sécheresse ou en tout cas d'accessibilité à l'eau douce ou l'eau potable, sont des sujets qui sont venus naturellement se mettre en place. Et pour tout gestionnaire qui se respecte aujourd'hui, on se doit d'être sensible.
Quand on voit les bateaux qu'on imagine tous dans ces ports, les petits bateaux assez classiques, pour laver un bateau comme ça, il faut combien de litres d'eau ?
En général, on peut être à 300 litres pour un bateau de 6-7 mètres à peu près.
Nous mettons le cap sur la Côte Bleue, à quelques kilomètres à l'ouest de Marseille, un endroit sauvage, de plus en plus connu des touristes, où le prix de l'immobilier fait tourner la tête, avec plusieurs problèmes, Airbnb et ses appartements. Il faut compter au moins 120 euros la nuit dans un studio de moins de 30 mètres carrés et sans la vue sur la mer. Il y a aussi les locations saisonnières informelles. Pire pour la mairie, elles se refilent sous le manteau les bénéfices et sans aucune taxe. Face à cet emballement des prix de l'immobilier, le marché de la location et de la vente trinque. Les jeunes ne peuvent plus rester. Aujourd'hui, un appartement 3 pièces s'achète 500 000 d'euros dans cette ville d'un peu plus de 7600 habitants. Sous l'impulsion du maire, la réaction, la mise en place d'un bail réel solidaire, un levier immobilier opaque et complexe qui a demandé l'aide de juristes. Mais après un an de travail, le résultat est là. Nous allons rencontrer une des bénéficiaires de ce programme qui vient tout juste de signer les papiers pour son appartement.
Donc je m'appelle Marine Chevreau et je suis fonctionnaire dans l'administration.
On est ici à Saussay-les-Pins devant une agence immobilière. C'était pour voir les prix de ce qu'il y a comme logement.
Là, c'est un T3 à Saussay-les-Pins, donc sur le port. On est à quasiment 300 000 euros pour 45 mètres carrés, une 3 pièces.
Et vous, ce que vous avez réussi à trouver ?
C'est un T4 de un peu plus de 70 mètres carrés pour moins de 300 000 euros également, même encore moins que celui-là, 288 000 euros, avec une grande terrasse.
Vous imaginez réussir à trouver un logement ici à Saussay, votre ville de naissance ?
Absolument pas. Non, non, c'était le but de mon conjoint, mais connaissant les prix de Saussay, pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible. Ça a été vraiment par hasard. C'était le premier jour où on s'est décidé à chercher notre appartement, qu'on est tombé sur cette annonce sur le Bon Coin. Donc, on s'est permis d'appeler, on va dire, un petit peu pour voir ce que c'était, parce qu'on n'y croyait pas, hein, très sincèrement. On s'est dit un T4 à moins de 300 000 euros à Saussay, il y avait quelque chose derrière.
Ce quelque chose derrière, finalement, c'est...
C'est un logement donc en BRS.
BRS, vous pouvez dire ce que c'est en entier ?
C'est un bail réel solidaire, grossièrement. Donc on est propriétaire des murs, mais pas du sol. On n'a pas le droit de le mettre en location. On est forcément une résidence principale. Et on n'a pas le droit de faire de plus-value dessus. Alors c'est vrai que ça freine énormément de personnes. Beaucoup de personnes qui achètent ici pour investir aussi, parce qu'on sait la valeur que peuvent avoir les biens immobiliers ici. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous, c'est pour vraiment habiter Saussay, profiter du confort de ce village, que moi, je connais très bien, du coup. Pour nous, ça, c'était vraiment parfait, l'occasion rêvée.
Et donc, il y a quoi comme conditions ? C'est des conditions de revenus pour accéder au bail réel solidaire ?
C'est ça, il y a des conditions de revenus. Ce que je sais, c'est qu'on était à peut-être 2000 euros en dessous du plafond, c'est-à-dire qu'on passait de justesse.
Les revenus de votre foyer à l'année, c'est combien ?
Sur l'année, on est à 52 000 euros. Oui, entre mon conjoint et moi.
Donc, et vous dites que ça s'est joué à moins de 2 000 euros ?
Oui, c'est ça. On était vraiment dans ces eaux-là. J'avais 60 000 euros en tête pour le plafond de revenus, mais il me semble que c'était un petit peu moins. Mais nous, on est à peu près à 52 000 euros à l'année.
Est-ce que ça vous a fait un peu peur au début, l'histoire de n'acheter que les murs, pas le terrain ?
Oui, bien sûr, parce que ça veut dire aussi qu'on a un loyer à payer à vie à l'OFS, l'organisme foncier solidaire. Donc il faut aussi que ce loyer rentre dans notre crédit. Mais finalement, si on fait rapidement le calcul sur ce loyer qu'on va payer, on va dire grossièrement, si on compte sur 60 ans, payer ce loyer plus notre crédit, avec ce montant-là, on n'a quand même jamais un logement de ce type-là sur Saussée. Donc finalement, quand on fait le calcul, pour nous, c'était vite fait, quoi. On ne s'est pas posé la question longtemps de toute façon.
Cette redevance par mois, elle représente combien ?
Alors c'est en fonction du mètre carré de l'appartement. Nous, il faudra compter à peu près 160 euros à peu près par mois pour un appartement donc de 73 mètres carrés.
Le maître d'œuvre de ce projet, c'est Nexity. Nous rencontrons le directeur régional, Lionel Séropian.
Allez, venez.
Alors, le bail réel solidaire, c'est une façon habile de contourner la problématique de la cherté du logement en France. C'est du logement abordable, c'est fait pour éviter la spéculation immobilière, et c'est fait pour des catégories de population qui ont un revenu qui ne leur permet pas d'accéder à la propriété sur le marché libre. Je vous fais ça. Ça, c'est l'immeuble. Ça, c'est le foncier. D'accord ? Ça, le foncier, c'est payé par une redevance mensuelle. Vous n'achetez que ça. Vous n'achetez pas le sol sur lequel repose le terrain. C'est ce qui se passe dans plein de pays européens, en Angleterre, aux Pays-Bas. En fait, ce dispositif-là, en France, n'a jamais marché parce que les Français ont une sacro-sainte idée de ce qu'est la propriété et veulent avoir la propriété du ciel au centre de la terre. Là, ils n'achètent que ce qui est à la surface. Et ça ne change rien. C'est-à-dire qu'ils usent de leur logement de la même manière que s'ils étaient en pleine propriété. Le sol, le prix du foncier en France est très cher. Pour fabriquer un logement en France, la valeur foncière est trop élevée, elle est démesurée. Et comme il y a pénurie, comme il n'y a pas beaucoup de fonciers, et comme il y a une demande forte en matière de logement, forcément, c'est rare, c'est cher. Pour juguler cette envolée des prix du foncier, l'OFS est un artifice, puisqu'il permet d'acheter, et c'est les collectivités, c'est un interventionnisme d'État quand même, hein. On achète et on loue le terrain pour l'amortir pendant X années.
Dans le cas de Saussée-les-Pins, le prix de l'immobilier sur les dernières années, il a augmenté de combien ?
Voilà, le prix du mètre carré à Saussée, alors dans le neuf et dans l'ancien, forcément il y a une différence, mais on peut tabler sur un prix qui est passé en quelques années de 4 500 à 6 000 euros le mètre carré.
Tu viens pas te mettre à l'eau ?
Si les habitants des sites touristiques se sentent écrasés par cette surfréquentation, que dire de la nature ? Dans la Calanque de Sugiton, l'accès est limité depuis l'été passé. Seule condition pour préserver la biodiversité. 400 personnes maximum, contre 2500 auparavant, grâce à un système de pré-réservation.
Vous avez vos réservations ?
Oui, ouais, super.
Pour le moment, c'est la seule Calanque à proposer cet encadrement. Elle était la plus en danger. C'est à l'entrée de ce site idyllique que nous retrouvons Mathieu Bonnour et Hélène Langlois.
Venez là, profitez d'un peu d'ombre, il n'y en a pas beaucoup.
Ça va, on n'est pas très grand.
Alors, parfait. Merci beaucoup.
Super, merci.
Profitez bien, bonne journée.
Bonne journée.
Pardon.
Mathieu, c'est avec le T1, c'est ça ? Le TH. Ouais, c'est ça, Mathieu Bonnour.
Ok,
ouais.
C'est bon.
C'est bon. Ça, c'est le compte, ce que vous avez, vous comptez à la main. Hein.
Je peux voir ?
Il y a plusieurs points de couleur, c'est ça, un sens où...
Alors vert, c'est les personnes qui avaient leur réservation, donc qui sont passées et qui nous ont montré leur réservation sans problème. Les jaunes, c'est les personnes qui sont venues mais qui n'avaient pas réservé. Donc on leur a expliqué qu'ils ne pouvaient pas passer, ils ont fait demi-tour. Et en rouge, c'est les personnes qui sont venues, n'avaient pas réservé et ont refusé de faire demi-tour, donc ont forcé le passage.
Ça arrive que des gens forcent
ça
le passage.
Ça arrive que des gens forcent le passage, oui. Hélène Rossignol, moi je suis cartographe au Parc National des Calanques et en charge avec mes collègues de l'appli technique de contrôle.
Alors, je m'appelle Chloé Segrestan.
Comment vous en avez entendu parler de ce système de réservation ?
Alors, en fait, ça fait déjà un an qu'on en a entendu parler. Et après, comme cette année, on a voulu voir la Calanque, puisqu'on en a vu d'autres, mais pas celle-ci. On a vu que pour celle-ci, il fallait réserver 3 jours à l'avance, max, enfin minimum. Donc, j'ai réservé mercredi à 9h, la première.
Ah, vous étiez sur le site internet dès l'ouverture.
Moi, j'avais déjà vu sur mon téléphone. Je fais, moi, je vais réserver, comme ça, au moins, je garantis mes places pour samedi.
Ah, mais c'est comme des billets de concert pour Beyoncé ou...
Presque, quasiment. Mais après, c'est gratuit, donc voilà. On va profiter maintenant.
C'est bien que ça soit mis en place
C'est pas embêtant, tant que ça reste gratuit pour les visiteurs. Je trouve que c'est une bonne initiative. Tant que ça permet de protéger un peu le parc et les calanques de Marseille, c'est une bonne initiative, je trouve.
Bonne baignade.
Merci. Bonne Merci. Journée. Au revoir.
Après le pass sanitaire, voici le pass touristique qui va être mis en place pour entrer dans la calanque de Sugiton. Ce sera une entrée à la journée. Alors, il y a urgence en fait parce qu'il y a trop de monde
Je suis Nicolas Chardin, je suis le directeur adjoint du Parc national des Calanques.
On est ici dans un lieu exceptionnel qui a été victime de son succès. L'année dernière, vous y avez déjà des réservations. Qu'est-ce que vous avez constaté comme impact positif ?
Alors, l'impact positif immédiat qu'on a pu constater déjà l'an dernier, c'est que vous voyez autour de nous, nous avons des zones qui sont des zones qu'on appelle de mise en défense, où il y a des petites clôtures qui évitent d'aller dégrader encore plus le site. Lorsqu'on avait 2500 à 3000 personnes sur un site comme ceci, bah, tous les espaces accessibles étaient occupés, mais les gens allaient aussi à l'intérieur de ces espaces protégés. Quand on descend à 6 fois moins de personnes sur le site, on arrête immédiatement l'intérêt d'aller dégrader les zones les plus protégées. Donc premier effet, arrêt immédiat de la dégradation de ces mises en défense qui sont les endroits où les dégradations sont les plus importantes et où on espère le plus de régénération. Donc après, il y aura un effet de plus long terme, mais qui va nécessiter d'attendre plusieurs années, qui est de passer de l'arrêt de la dégradation à la régénération du site, donc à ce que la garrigue qu'on voit se développer naturellement reconquiert les espaces où elle a été complètement érodée par le passage des visiteurs.
C'est une végétation qui sert à quoi ? Est-ce qu'elle sert à tenir les roches ? Est-ce qu'elle sert à la vie de la faune et de la flore ?
Effectivement, l'enjeu il est multiple. Il est effectivement sur la protection de la faune et de la flore telle qu'elle existe aujourd'hui. Il est sur le maintien en place des sols qui est tenu aujourd'hui par la végétation et par la pinène. Et puis il est sur le maintien de l'aspect paysager de ce site, qui est une des rares calanques d'ailleurs à être boisée avec des pins de grande hauteur. Et donc sans ces mesures un peu fortes, la dégradation n'aurait fait que s'accélérer jusqu'à avoir uniquement des sols tels que celui sur lequel nous sommes, avec uniquement des cailloux qui affleurent sans aucune végétation qui ait pu résister.
Pardon, je me permets de vous couper. Il y a un bateau de police là qui rentre dans la calanque.
Oui, c'est donc une patrouille du Parc national des Calanques qui va être amenée vraisemblablement à intervenir sur un sujet qui a pu lui être signalé.
Il y a une grosse surveillance sur la calanque.
Là, en fait, on est sur des patrouilles classiques qui ont lieu en mer tous les jours quasiment pendant la période estivale. Donc nous avons à la fois des agents commissionnés assermentés, ce qui est le cas là, donc qui sont capables de relever des infractions et de pouvoir verbaliser. Et on a aussi des agents d'information et de sensibilisation qui vont être présents tout l'été pour accueillir le public, faire partager les bons gestes et pouvoir expliquer les enjeux environnementaux du site au public.
Ah, alors ça sera tout côté.
C'est par là ?
Oui, parce que le sentier qu'il y avait là, il est fermé définitivement.
Ah, d'accord.
Donc,
voilà. Ok,
c'est
gentil.
Vous avez la réservation ? Non. Alors, ça sera là aussi, mais en fait, à partir d'aujourd'hui, il faut réserver pour aller.
Ah, non, on a marché, là, on va y aller quand même.
Ah, vous ne pourrez pas, monsieur. Ouais. Il y a un point de filtrage et il y a une opération de police en cours.
Minutes, on remontera, c'est pas grave. C'est gentil, en tout cas, merci.
En fait, le chemin, il est fermé, donc il y a des barrières.
Ouais, on va essayer de... Après, on revient sur l'autre.
On est des hommes libres, on le sait, pour dessus les barrières.
Mais... Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas.
Ça chemin vous ennuie aujourd'hui.
Bon après-midi, profitez bien. Merci à vous.
Point de contrôle de Sugiton pour le col de Sugiton. Nous avons deux personnes là qui ont forcé le passage et ils n'ont pas de QR code. Ils ont quand même voulu passer. Donc attendez-vous à les voir à votre point de contrôle. Voilà, deux hommes, dont un qui a un short bleu. Merci, terminé. Solène Patin, donc je suis éco-garde pour le parc national des Calanques.
Comment on gère dans ces situations-là ?
Dans ce cas-là, donc, je préviens le point de contrôle qui est juste en bas donc, de la Calanque, qui eux vérifient les QR codes en leur disant que nous, il y a des personnes donc, qui ont forcé le passage malgré l'information qu'on a pu leur donner. Et eux, après, essaient de les reconnaître et puis ils interviennent. Et en général, de toute façon, quand ils n'ont pas le QR code, arrivés sur place, soit ils reforcent le passage et ils se font verbaliser ou alors ils comprennent qu'ils ne peuvent pas passer et font demi-tour.
C'est difficile ces moments de tension. Là, la scène, elle était un peu tendue, quoi.
Nous, on est juste là pour informer. On n'est pas là non plus pour rentrer dans de gros conflits. Si la personne, elle veut continuer, eh bien, on la laisse. Et c'est pour ça, après, du coup, on fait le message radio pour prévenir les agents.
Sur Tourisme, après les excès, la quête d'un nouveau modèle. C'était un reportage de Mathieu Bonnour avec Hélène Langlois à la prise de son. Martine Messonnier a aidé comme chaque semaine à la fabrication de cette émission réalisée par Jérôme Chélius, mixage Jean-Baptiste Etchepar-Borde. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France Inter. La semaine prochaine, Interception vous proposera des rediffusions de quelques-uns des meilleurs reportages de la saison écoulée. Toute la petite et néanmoins merveilleuse équipe d'Interception se joint à moi pour vous souhaiter un très bon été.